Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et c'est Régis qui est au micro. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le roi des instruments, le piano. Oui, j'ai choisi de vous parler de l'instrument que vous venez d'entendre dans l'indicatif et qui fait rêver tous les parents des enfants en âge de prendre des leçons de musique, qui pensent qu'ils vont devenir des virtuoses à l'égal d'Hélène Grimaud, de Lang Lang ou de Maurizio Pollini, et avant eux de Count Basie ou même de Franz Liszt ou encore de Chopin. Le piano. Pour commencer, je dirais que, comme la plupart des instruments, le piano est toujours présent dans la musique, et ceci dès le XVIIe siècle, au moment où est apparu le premier des instruments à clavier et à cordes, le clavecin. Bien sûr, tout le monde connaît la différence entre le clavecin et le piano. Le clavecin pince les cordes et le piano les frappe. D'où cette grande différence de sonorité et de musicalité, les deux n'ayant finalement que peu de rapport. Pour s'en faire une idée, il suffit d'écouter une œuvre d'abord écrite pour le clavecin, puis transposée pour le piano, et je pense en particulier aux très célèbres Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Et pour illustrer cette différence de sonorité, je vous propose d'écouter tout de suite deux versions de ces variations Goldberg, la première au clavecin et la seconde au piano. Voici donc la variation numéro 3, en fait la quatrième pièce, car il y a l'aria du début, qui est lui-même suivie des 31 variations. Elle s'intitule « Canone all'unisono », ce qui veut dire « canon à l'unisson », et l'on entend parfaitement le thème musical qui revient sous différentes formes et en se superposant. C'est Peter Jan Belder au clavecin. Voilà, c'était la version au clavecin et maintenant nous écoutons la même variation au piano. Je vous ai souvent parlé de Glenn Gould, pianiste des années 1950 à 1980. Il a enregistré deux fois les variations Goldberg, une première fois en 1955 et une deuxième en 1981. Le premier enregistrement dure 38 minutes 26 et le deuxième 51 minutes 14. Et c'est là tout le talent de Gould, capable de changer complètement de façon de jouer pour explorer la même œuvre avec deux regards différents. On écoute donc la même variation numéro 3, version 1955, qui dure 55 secondes, à mettre en regard des 2 minutes de l'interprétation précédente. Thank you. Vous aurez cependant remarqué que notre ami Gould a quelque peu raccourci la partition, n'ayant pas estimé nécessaire de reprendre le da capo final. D'où la différence de durée entre clavecin et piano. Mais ça, c'est Glenn Gould dans toute sa splendeur. On reste avec Jean-Sébastien Bach et Glenn Gould dans une interprétation flamboyante, vraiment flamboyante, du concerto numéro 7 en sol mineur, le premier mouvement, Allegro, et l'on entend ici toute la magie du dialogue entre le piano et l'orchestre. C'est un enregistrement de 1967 avec l'Orchestre symphonique de la Columbia sous la direction de Vladimir Goldschmann. Bon, voilà, c'était Bach, mais il n'y a pas que Bach dans la vie, hein, quand même. Hein, on peut espérer autre chose, surtout quand on parle de piano. Il y a un compositeur qui nous a donné des œuvres pour piano très connues, c'est notre ami Wolfgang. Mozart, bien sûr. Je vous propose sans tarder l'une d'elles, qui fait les délices des restaurants qui cachent leur misère culinaire sous des musiques plus relevées que leurs plats. C'est le concerto numéro 21, le deuxième mouvement, Andante. Hélène Gall est au clavier, et István Cohen dirige le Mozart Festival Orchestra.
Thank you.
Vous êtes dans l'émission Au fil des notes sur Couleur FM 97.1 avec Régis et aujourd'hui l'instrument roi, le piano. Pour la petite histoire, ce concerto que nous venons d'entendre est devenu un tube grâce à un film aujourd'hui méconnu au titre de Elvira Madigan, qui raconte l'histoire d'un aristocrate, je vais y arriver, qui tombe amoureux d'une acrobate de cirque, là aussi je vais y arriver. Je reprends donc, qui raconte l'histoire d'un aristocrate qui tombe amoureux d'une acrobate de cirque et qui décide de tout abandonner pour vivre avec elle. Et bien entendu, ça se termine mal. Je dis bien entendu parce que c'est un film suédois de 1967 et à l'époque, tous les films suédois avaient une fin assez noire. Voyez ceux de Ingmar Bergman, par exemple. Bref, après ce moment de musique un peu mélancolique, abandonnons le XVIIIe siècle pour avancer un peu dans le temps et arriver ainsi à l'inévitable Beethoven. Il composa 6 concertos pour piano et les 6 sont vraiment exceptionnels. Mis à part le 6e peut-être, qui est la transcription pour piano de son concerto pour violon, mais qui reste néanmoins très intéressant. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à choisir entre les 5 autres, tant j'aime vraiment cette musique. Et je vous offre donc ce long extrait, près de 9 minutes, juste pour le plaisir des oreilles. C'est le concerto numéro 5, opus 73, dit Concerto Empereur, le 2e mouvement, Adagio un poco mosso. Shoko Sugitani est au piano, accompagné par le Berliner Symphoniker, sous la direction de Gerhard Hoskamp. Et nous voilà donc au XIXe siècle, à ce moment de l'histoire de la musique où le piano devient vraiment, véritablement, vraiment, le roi des instruments. On peut citer pour mémoire les grands compositeurs, Chopin, Moussorgsky, Liszt, qui fut lui-même pianiste virtuose, Tchaïkovski et Brahms, et les fameux trios de Franz Schubert, et Clara et Robert Schumann, et tant d'autres. Et là aussi, le choix est difficile. Alors, j'ai pioché dans ma discothèque et j'ai sorti deux CD. Le premier est celui de la bande originale d'un film qui m'a bouleversé lorsque je l'ai vu à sa sortie, Le pianiste de Roman Polanski, Palme d'or à Cannes en 2002, et que je ne peux pas voir encore sans émotion aujourd'hui. Tout le monde sait ce que raconte ce film. Vladislav Spielmann, pianiste déjà reconnu, survit envers et contre tout à la folie destructrice des nazis dans le ghetto de Varsovie. Et le tout début du film est illustré par ce très beau nocturne de Frédéric Chopin, le nocturne numéro 20, en do dièse mineur. Le voici donc, interprété dans ce CD du film par Janusz Oleniczak. Les Polonais qui nous écoutent me pardonneront la mauvaise prononciation de son nom. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Régis et aujourd'hui, le piano dans tous ses états. Très sincèrement, je vous l'avoue, j'ai presque les larmes aux yeux en entendant cette musique quand on sait ce qu'elle représente de souffrance. Savez-vous d'ailleurs ce que veut dire le nom de Spielmann, le nom de ce pianiste? C'est dit implicitement à un moment dans le film et cela veut dire le ménestrel, littéralement le joueur de musique, un nom prédestiné. Et voici mon deuxième choix, on avance encore un peu dans le 19e siècle, et nous voilà avec Tchaïkovski, qui nous offre le concerto pour piano numéro 1, certainement un des plus joués au monde. En voici le final, Allegro con fuoco, qui veut dire « rapide avec feu », tout un programme, et qui porte vraiment bien son nom. Au piano, Peter Topercer, et l'Orchestre National de Slovaquie est dirigé par Bystrik Rezucha. Thank you. Voilà, c'était Tchaïkovski. On est maintenant à la fin du 19e siècle, et voilà qu'arrive Moussorgski et cette œuvre célébrissime également, tableau d'une exposition, suite de pièces pour piano, qui sont la représentation musicale de tableaux d'ailleurs, exposés dans une galerie. Il y en a 16, et il faut savoir que ces tableaux d'une exposition ont été transposés pour orchestre par Maurice Ravel. Nous écoutons la première de le premier de ces tableaux qui s'intitule Promenade. C'était Ivo Pogorelitch qui jouait ce premier tableau des tableaux d'une exposition de Moussorgski. On pourrait ainsi continuer très longtemps, il nous faudrait je ne sais combien d'émissions pour citer et écouter tout ce que j'ai choisi aujourd'hui. Peut-on parler de piano sans parler de Rachmaninov, par exemple? Non, bien sûr. Et puis, on ne peut passer sous silence le piano du XXe siècle, avec parmi les très grands compositeurs, Debussy et Ravel, dont je viens de parler, pour ne parler que des Français, que j'aime vraiment beaucoup tous les deux. Et pour illustrer mon propos, je vous donne à écouter une pièce très connue de Maurice Ravel, la Rhapsodie espagnole, le prélude à la nuit, interprétée ici par deux phénomènes du piano, les sœurs Katia et Marielle Labeck, qui jouent ensemble depuis plus de 30 ans et à deux pianos. Thank you. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Régis toujours. Et aujourd'hui, vous l'aurez deviné, nous parlons du piano. Mais je ne peux pas oublier le piano jazz. Et là aussi, c'est très difficile de privilégier tel ou tel compositeur. Pour ne citer que les plus célèbres, Scott Joplin, Count Basie, Duke Ellington, Errol Garner, Nat King Cole, Oscar Peterson et bien d'autres encore. J'ai donc une fois de plus revisité ma discothèque et j'ai très arbitrairement choisi un pianiste-compositeur, peut-être un peu moins connu, mais qui a un talent énorme et en tout cas toujours bien vivant, Keith Jarrett. Bon d'accord, il a un caractère insupportable. Preuve en est la prestation qu'il a faite en trio aux Nuits de Fourvière en 2013, où il n'a daigné jouer que 45 minutes et puis plus rien. Malgré ça, je vous fais écouter le début de ce fameux concert qu'il a donné à Cologne en 1975, et là je dois dire que c'est vraiment magique.
Thank you.
Voilà, c'était le début du concert de Keith Jarrett à Cologne en 1975. Et c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié la programmation. Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir si vous aimez ou pas ce que je vous propose dans Au fil des notes. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse contact@couleurfm.fr, couleur avec un S, couleur au pluriel, couleurfm.fr. Et maintenant, les annonces habituelles de la musique sur notre territoire et au-delà. Le Conservatoire Hector Berlioz, qui est toujours à votre disposition avec plein de bonnes choses. On peut se renseigner sur le site de la CAPI, rubrique Culture, cliquez sur Conservatoire et vous avez tout le programme. Au cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, qui est un de nos partenaires, je signale à nouveau que l'on peut y voir sur écran la retransmission d'opéras célèbres tels que La Traviata à partir du 11 mars ou bien encore Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss à partir du 13 mai. Je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site du Kinépolis de Bourgoin-Jallieu pour les dates et les horaires. Au Théâtre du Vélin, là aussi même démarche, le site de la CAPI, puis Culture, et cliquez sur Théâtre du Vélin et vous aurez tout le programme. Mais je signale déjà deux spectacles et concerts exceptionnels, la compagnie de danse de Maggie Marin les 11 et 12 avril, et le Chœur de Femmes dirigé par Nicole Corti avec Octavien Saunier à l'orgue, à Saint-Jean-Baptiste, à Bourgoin-Jallieu, le 5 mai. On aura l'occasion d'en reparler. À l'Opéra de Lyon, bien sûr, le site opéra-lyon.com avec au programme Jeannot Bûcher et l'Arlésienne. Et à l'Auditorium de Lyon, du jazz, mais aussi Scheherazade de Ravel, avec André Dusselier comme récitant, la Symphonie Fantastique de Berlioz, Marc-André Hamelin, un grand pianiste qui joue Beethoven, Brahms et Ravel, et le Carnaval Jazz des Animaux, qui est passé au Vélin en janvier et qui est repris ici les 24 et 25 février. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à Laurent qui était à la technique aujourd'hui. Et à bientôt dans Au fil des notes.